Classique du Monde, Laurence Alloa, Tegui Mfatroré. Musique du Monde sur RFI.
Bienvenue dans la session live de RFI qui va faire chanter le bandoneon et le violon avec nos invités Louise Jalut et Mathias Lévy. Il sera question de tango, de prostitution, d'Albert Londres, de Stéphane Grappelli, un peu de composition originale, beaucoup. Et c'est Louise Jalut qui est en piste avec ses musiciens pour le titre « À Gennevilliers ». Bonsoir. Louise Jalut, quartet sur RFI dans la session live.
Music du monde, la session live. sur RFI.
Louise Jalut était au bandoneon, Mathias Lévy au violon, Grégoire Letouvet au piano et Alexandre Perrault à la contrebasse. Le prochain concert à Paris sera le 31 janvier au Pan Piper. Elle sera en coplateau avec Mathias Lévy, qui est également un musicien du quartet. Mathias Lévy qui viendra, lui, en trio. Alors, on vous reçoit pour un album qui n'est pas tout nouveau, en fait, puisque les premières traces datent de 2018. Un 17 mars 2018, vous étiez au Café de la Danse, donc ce live a été enregistré. Ça donnait suite à un double album, une partie, plus éthéré, plus solo avec quelques invités, l'autre partie qui était live de mémoire.
L'autre partie en quartet.
En quartet, pardon.
Tout ça en studio. Et effectivement, on a sorti le vinyle du concert qu'on a fait au Café de la Danse pour se faire plaisir, en fait. Voilà,
c'était un bon moment.
Magnifique. On a passé un très beau moment. C'est toujours des sorties de disques, c'est toujours des moments particuliers parce que musicalement, on a une sensation. Voilà, c'est la sortie du disque. Alors on est tous. Très ému, et ça c'est très important à voir en musique.
Louise Jalut, vous avez démarré le bandoneon à l'âge de 5 ans au conservatoire de Gennevilliers. On se dit qu'est-ce qu'elle va faire à Gennevilliers? C'est l'un des rares endroits où on peut apprendre le bandoneon avec d'assez grands musiciens comme Juan José Mussolini, comme César Strozio, qui fait partie du trio Esquina. Ils ont été vos professeurs?
Ils ont été tous les deux mes professeurs. J'ai eu la chance effectivement d'habiter à Gennevilliers.
D'habiter au conservatoire,
donc vous y dormiez. D'habiter au conservatoire. Oui. Parce que toutes les semaines, voilà, c'était des allers-retours. En plus, on habitait à côté, donc c'était un bonheur.
Mais comment c'est à 5 ans, c'est une punition? Vous avez un parent abusif? Ou alors c'était pour faire comme votre grande... Non, mais quand on commence un instrument de bonheur, il y a toujours une raison. Soit il y a un parent qui dit, toi, tu vas faire ça. Ou alors c'est une histoire d'amour. J'ai mon petit copain qui veut faire de la musique. Je suis jalouse, je veux y aller aussi. Ou alors il y a une grande sœur.
Oui, voilà, il y a ma grande sœur qui m'a influencée beaucoup parce qu'elle...
Elle
faisait du bandoneon.
Mais qu'est-ce qui lui a pris?
Elle voulait faire de la cornemuse, alors je la remercie d'avoir choisi le bandoneon. Même si j'aime beaucoup la cornemuse, j'aime beaucoup les sonneurs. D'ailleurs, on va créer une pièce avec cornemuse à Rennes en juin prochain. Donc,
avec l'Orchestre de Bretagne.
Avec l'Orchestre de Bretagne, une pièce de Bernard Cavana. Et j'en viens à Bernard Cavana parce que c'est lui qui a créé les premières classes de bandoneon en Europe. Et donc c'est grâce à lui que plein de gens sont passés par le conservatoire de Gennevilliers et qu'aujourd'hui le tango et cette culture peut perdurer, sans quoi on aurait beaucoup moins de tango en Europe, ça c'est certain. J'ai eu un professeur de solfège qui était aussi merveilleux, qui s'appelle Philippe Miller et qui aujourd'hui est directeur de la musique au conservatoire de Gennevilliers à son tour, il a succédé à Bernard Cavana. Et ce sont donc des personnalités comme ça qui marquent, et c'est grâce à eux qu'on fait de la musique, parce que c'est des rencontres, c'est ces liens-là qui sont très forts. Et d'ailleurs, on continue à travailler ensemble avec eux.
Mathias Lévy, on peut dire que Louise Jalut est une super douée?
Bien sûr, une jeune prodige.
En fait, si j'ai bien compris, l'année où vous avez passé votre bac, c'est-à-dire le mois dernier, parce que vous êtes toute jeune, vous avez 12 ans et demi. Bon, allez, 18, 25, combien?
25, ça fait quelques années que j'ai passé mon bac.
Mais... Ouais. La même année, vous êtes diplômée, enfin, vous avez votre DEM, le diplôme d'enseignement musical. Et si j'ai bien compris, vous avez remplacé César Strozio au conservatoire de Gennevilliers.
Il m'a légué sa chaire de professeur, alors j'en suis très touchée. Oui, bien sûr.
Voilà.
Et je suis, voilà, j'ai succédé à sa classe.
Vous êtes prof ?
Je suis professeure maintenant au conservatoire de Gennevilliers. Alors j'ai des petits de 5 ans, des adultes. On peut apprendre aussi tardivement le bandoneon, il n'y a pas de souci. On les accueille jusqu'à 70 ans. Donc entre 5 et 70 ans, on a tout le temps d'apprendre le bandoneon et le tango.
Mathias Lévy, vous qui travaillez avec Louise Jalut, et puis vous avez aussi une carrière sous votre nom en dehors de Louise. À votre avis, quel est l'instrument le plus difficile pour un enfant ? C'est le violon ou le bandoneon ?
Bonne question, parce que le bandoneon, c'est particulièrement mal foutu comme instrument.
Oui.
Alors, le violon, c'est difficile, mais il y a une certaine logique, il y a une symétrie quand même, qui, à mon avis, rend ça, par certains aspects, plus abordable.
Le violon,
Mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu des enfants sur un bandoneon, ce que ça donne.
Comment ça marche, un bandoneon? C'est le concertina, mais arrangé pour qu'il y ait plus de notes. Mais ce n'est pas un accordéon.
Exactement.
On tire, on pousse.
On a affaire à quelqu'un d'enseigner, c'est bien. Oui, en fait, c'est comme si on prenait les notes d'un piano, qu'on les mélangeait n'importe comment, comme à souhait. Voilà. Et qu'on les disposait d'une certaine manière à droite et d'une certaine manière à gauche et dans un autre sens en poussant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une certaine difficulté.
Cerveau particulier.
Peut-être j'ai un cerveau un peu
dérangé.
Et du coup, les enfants, comment ils réagissent?
On développe des méthodes pédagogiques pour pouvoir rendre le bandoneon un petit peu plus...
abordable, voilà, facile, avec
plus
des volumes,
avec des
couleurs.
Jeux, toutes un tas de sortes de méthodes. Hein. C'est vraiment... d'autres pour qui ce n'est pas une difficulté, ils vont trouver ça normal. Alors,
disons que le violon, c'est plus le son qui va être difficile, ça va être difficile de créer le son. Le bandeau, je pense que ça va sortir un peu plus tout seul. Par contre, trouver les notes...
Exactement.
C'est l'archet, et la pose de l'archet sur les cordes, qui est très pénible au début. Quand quelqu'un démarre le violon, les voisins se plaignent. Ça, je sais que... voilà. Vous avez mis combien de temps pour avoir un son potable, vous, Mathias Lévy, avec votre violon, quand vous avez commencé? À quel âge, d'ailleurs?
Moi, j'ai commencé vers 4 ans, 4-5 ans. Je ne me souviens pas. Le premier souvenir que j'ai un peu de trucs comme ça, c'était mon grand-père qui a joué du violon, qui m'avait appris comme ça, hors circuit, qui m'avait dit si tu bouges comme ça, ça va faire vibrer. Ça fait un vibrato, qui m'avait donné un cours express de vibrato. Et du coup, j'avais découvert ce truc-là, j'ai trouvé ça formidable parce que ça masque un peu la justesse, ça rend tout, c'est comme la réverb, ça rend tout joli, quoi. D'avoir du plaisir avec l'expressivité tout de suite, quoi.
Mathias, puisqu'on parle d'expressivité, je vous encourage vivement à rejoindre vos musiciens ou votre musicien pour le titre Extatique, cet extrait de votre tout nouvel album qui s'appelle Univers. Mathias Lévy sur RFI dans la session live. Thank you. Matléas Lévy et son tout nouveau trio sur RFI dans les musiques du monde.
Music du monde. La session live. Music du monde sur RFI.
Matléas Lévy avec le titre Extatique, l'album s'appelle Univers. Alors je disais tout nouveau trio parce que vous avez profité de la contrebasse de Louis Jalus, c'est-à-dire Alexandre Perrault, pour compléter votre trio. Il y avait Sébastien Gignot à la guitare. Le contrebassiste habituel s'appelle
Jean-Philippe Viret.
Alors Jean-Philippe Viret, c'est la génération d'avant, hein, de mémoire. Je pense qu'il a joué avec René Urtreger, qui avait enregistré Ascenseur pour l'échafaud.
Il a joué avec tout le monde.
Il a joué avec tout le monde.
C'est même deux générations avant, si on prend les catégories sociaux.
Comme vous voulez, Mathias, ouais. Je ne vous contredirai pas. C'est vous le chef ici.
Ça marche, oui.
Mathias Lévy, alors vous, votre parcours, vous arrivez du classique, vous êtes premier prix de violon et de musique de chambre et de solfège au conservatoire de Rincy. Alors vous avez 17 ans. Il y a un homme qui va un peu changer votre regard sur la musique classique, c'est Didier Lockwood, qui va vous montrer de quelle manière on peut se servir aussi du violon, partir vers le jazz. Vous êtes venu dans cette émission il n'y a pas très longtemps pour présenter Revisiting Grappelli. Alors ça, c'est l'autre monsieur qui vous sert, j'allais dire, d'appui pour votre travail. Stéphane Grappelli, qui a réussi à projeter le violon dans un monde un peu manouche, je veux dire, le style Grappelli, le violon de Grappelli, tout le monde sait le reconnaître, c'est un style tout à fait particulier. Quand vous avez sorti l'album Revisiting Grappelli, c'était un album hommage, univers, c'est la suite, c'est le futur. Comment vous réunissez ces deux projets ?
C'est complètement la suite de Revisiting et de Bartok aussi, parce que j'ai fait deux albums comme ça, hommage, qui était une façon de renouer à la fois avec l'acoustique et avec les deux fondamentaux finalement de mon violon. Ces deux albums, Revisiting Grappelli et Bartok Impression, c'était une façon de renouer avec les deux éléments un peu fondateurs de mon violon, qui sont finalement la musique classique et puis le jazz, on va dire, à tendance plutôt épicée, voire zigane. Donc voilà, et puis l'univers, c'était l'étape d'après encore, après avoir fait cette espèce de petit pas retour en arrière, mais coup d'œil dans le rétroviseur, pour mieux... Enfin, je préfère l'image du... On appelle ça du trampoline, c'est-à-dire on redescend pour rebondir plus haut. Donc là, c'est un peu le rebond.
Le violon avec lequel vous avez joué, c'est le violon de Grappelli.
Le violon de Grappelli, il sort pas de la philharmonie. Il me prête pour les enregistrements et pour les concerts. Et ça, c'est un autre violon.
D'accord. C'est le violon dont on parlait, c'est le violon Pierre L. Que Grappelli a offert à la philharmonie, enfin au musée de la musique en 95, je crois. Et vous avez donc, vous, l'autorisation d'y toucher quand vous êtes dans les murs.
Voilà, puis par rapport au projet, quand j'ai fait donc le disque Revisiting Grappelli et le disque Univers chez eux, ils sont coproducteurs du disque.
Donc vous avez pu utiliser l'instrument. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le violon de Grappelli ?
Les violons, c'est comme les instruments, ils sont tous particuliers. Donc qu'est-ce qu'il a celui-là de particulièrement particulier ?
Il a... Parce que les doigts de Grappelli sont passés dessus ou il y a quand même autre chose ?
Oui, alors il y a toute la symbolique. Et puis il se trouve que... c'est parce que ce n'est pas un violon très cher, très coté. Ce n'est pas un violon qui vaudrait des millions comme certains violons. C'est un petit violon français du XXe siècle. Donc c'est assez raisonnable en termes de cote. Mais il se trouve qu'il a un son extrêmement à la fois chaleureux, puissant et qui sort très vite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très pratiques pour jouer du jazz.
Okay. Et le violon que vous utilisez aujourd'hui, il vient d'où ? Qui est le luthier ? Est-ce que c'est un violon particulier ?
Eh ben, c'est un luthier inconnu au bataillon. Un luthier parisien, début 20e. J'ai trouvé ce truc-là qui se trouve sonner plutôt bien et du coup pas coûter très cher parce que c'est pas un luthier connu. Et ma foi, pour l'instant, ça fait mon affaire.
Est-ce que vous travaillez sur des bandoneons Arnold ?
Les bandoneons Alfred Arnold ?
Oui.
Oui, c'est en fait le
Louis Jalus, pardon.
La manufacture qui a fait connaître le bandoneon. C'est eux qui l'ont commercialisé. Et c'est le bandoneon Alfred Arnold, du coup, qui a donné ses lettres de noblesse au bandoneon. C'est-à-dire le timbre si particulier qu'il a. On recherche ce timbre sur tous les bandoneons. Et donc, les bandoneons Alfred Arnold sont ceux qui, en général, ont ce timbre.
Ce qu'on appelle le double A.
Le double A, voilà, qui a donné lieu à des compositions, notamment de Astor Piazzolla. Effectivement, c'est comme un compagnon de route.
On va écouter un extrait de ce fameux concert du 17 mars 2018 au Café de la Danse, qui a fait l'objet de la sortie d'un vinyle. Et c'est avec le titre Francesita, qui veut dire la petite française. On vous expliquera juste après de quoi il retourne. C'est pas très drôle, en fait.
Je suis une petite française Je suis de Paris, avec ma silhouette nerveuse et fine, mes brillants et ma toilette, les filles d'Argentine me regardent et disent de moi, je ne sais quoi. Petite Française, fleur du boulevard, ne sois pas triste, sinon tu vas pleurer. Et il faut rire, rire pour oublier.
C'était le 17 mars 2018 au Café de la Danse et le titre Francesita, Louise Jalut. Alors, l'histoire de cet album est finalement assez triste. Vous êtes partie d'un livre d'Albert Long, qui était un journaliste, un écrivain qui aimait bien vérifier sur place ce qui se passait. Il préférait regarder, écrire ce qu'il avait compris que de lire dans les journaux des autres. Et donc, il a fait ce bouquin sur la prostitution à Buenos Aires. C'était la traite des Blanches, donc le chemin de Buenos Aires. C'est un bouquin qui est sorti en 1927. Comment se fait-il que vous, pour un premier travail, vous soyez intéressé par la traite des Blanches, par Albert Londres et par ce Buenos Aires-là?
Alors, ce qui m'intéressait, c'était d'aller au cœur de l'origine du tango. C'est une belle métaphore de Mathias tout à l'heure, du trampoline. Donc, d'aller vraiment sur le trampoline, vraiment en bas, pour pouvoir comprendre cette musique à son origine, donc comment elle est née, quelle a été son histoire, quels sont les protagonistes qui ont fait en sorte que cette musique, qui est un mélange culturel de plein de cultures différentes, se fasse et se façonne. Voilà, c'était ce moment-là qui m'intéressait, qui est pour moi un moment clé du tango. Donc forcément, c'est le tango qu'on dit des bordels. Donc forcément, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'histoire des femmes qui ont été victimes de la traite des Blanches et qui étaient présentes à ce moment-là de l'histoire du tango. Donc
des candongos qui portent des prénoms féminins et avec des compositions d'Enrique Delfino que vous reprenez évidemment. Racontez-moi un peu l'histoire d'Enrique Delfino qui est au 19e siècle.
Exactement. Alors Enrique Delfino est un de ceux qui ont modernisé le tango dans les années 20. En utilisant d'autres sortes d'harmonies, d'autres rythmes. Donc ça a été quelqu'un de très important dans l'histoire du tango. Il a écrit ce thème qui s'appelle Francesita, c'est-à-dire la petite française. Et cette petite française, c'est celle qui est partie de son Lyon en France et qui a été enrôlée par un macro qu'elle pensait son homme. Et elle s'est faite avoir. Donc elle est devenue la malheureuse Francesita de Buenos Aires. Et cette petite française, je me suis aperçue qu'il y avait pas seulement les Françaises, mais les Portugaises, les Allemandes, les Juives. Il y avait toutes sortes de femmes qui se sont amourachées d'hommes qui les ont emmenées là-bas. Donc
le tango se nourrit quand même de drames.
Voilà. Donc du coup, c'était
parce qu'une femme qui se fait sauter 50 fois par jour, excusez-moi, ça s'appelle pas un rêve, ça s'appelle un cauchemar.
Exactement.
Et on meurt dans un bordel.
Exactement.
C'est pas la belle vie.
Des victimes de la traite des Blanches.
Et ça laisse Mathias Lévy totalement penseur. Vous allez donc jouer du violon, Mathias Lévy, avec vos musiciens. Et vous avez choisi le titre Sur le fil. Mathias Lévy dans la session live sur RFI dans les musiques du monde.
Thank you.
le trio Mathias Lévy sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live.
Et le titre qui vient d'être interprété en studio, c'est par Mathias Lévy, Alexandre Perrault à la contrebasse et Sébastien Gignot à la guitare. Le titre sur le fil et le nouvel album de Mathias Lévy et de son trio, c'est Univers. Vous avez une manière de jouer du violon très peu orthodoxe. Vous avez fait subir à votre violon les derniers outrages. C'est quoi ces manières de taper l'archet sur les cordes? Expliquez. C'est pas au conservatoire, en classique, on vous a appris ça, hein, Mathias Lévy.
C'est pas en classique, mais c'est... comment dire ça? Il y a ça à la fois dans les musiques traditionnelles et il y a ça à la fois dans la musique contemporaine. Et c'est vrai que notamment de travailler avec Louise et avec les arrangements de Bernard Cavana, qui a une écriture pour violon à la fois renseignée et créative, bah, ça m'a pas mal aiguillé dans ce sens-là aussi. Ça m'a aidé à trouver des choses aussi comme ça qui sortent des techniques ordinaires. On va dire.
Louise Jalut, je vous propose de retrouver vos musiciens pour un nouveau titre qui s'appelle Buenos Aires Hora Cero. Je crois que c'est un morceau d'Astor Piazzolla, enfin, que vous avez revu et corrigé avec votre camarade Bernard Cavana. On se revoit juste après ?
Oui.
Et ben voilà, on fait comme ça. Louise Jalut sur RFI. Thank you. Jalu sur RFI.
Music du monde. La session live.
Buenos Aires, Hora Cero, c'est le titre que vient d'interpréter Louise Jalu au bandoneon, Mathias Lévy au violon, Grégoire Letouvé au piano et Alexandre Perrault à la contrebasse. Concert le 31 janvier au Pan Piper avec Mathias Lévy. Est-ce que vous êtes déjà allé à Buenos Aires?
Oui, plein
Buenos
de fois.
Buenos Aires, c'est plus international.
Oui.
Si.
Oui, si.
Combien de fois? Quand? Oh. Pourquoi?
La dernière fois, ça remonte à août dernier, où j'ai présenté le disque Francesita, mais en une version solo, parce qu'il y a aussi la partie solo.
On va écouter un extrait de nouvel album de Mathias Lévy. L'album s'appelle Univers. Alors, vous aviez choisi le titre Gintita. Moi, j'ai préféré Kind of Fall. Vous m'en voulez beaucoup?
Pas du tout.
Mathias Lévy sur RFI. Kind of Fall, c'était extrait du tout nouvel album de Mathias Lévy, Univers. Mathias, quand vous réécoutez, est-ce que vous avez une oreille critique ou une oreille bienveillante?
J'essaie de ne pas être focalisé sur le violon. J'essaie d'être focalisé sur ce qui se passe globalement, l'énergie globale du morceau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en dégage ou pas?
Au son, il y avait Fabien Mugneret et Benoît Le Tyran, et nos invités étaient Louise Jalut et Mathias Lévy, que vous pouvez retrouver ensemble, puisque c'est un coplateau, le 31 janvier à Paris, dans une salle qui s'appelle le Pan Piper. Vous allez vous mélanger, évidemment, chacun son tour, mais plateau commun.
Oui, on aime bien ça.
Oui, bah, c'est ça, la consanguinité. C'est parti, merci infiniment, les musiques du monde sont terminées. Applaudissez-vous, parce que vous étiez plutôt pas mal. Bravo. Thank you.